Terroir Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 8 janvier 2024 sur VO Afrique. Nous émettons en direct de Washington DC. John Lydon à la présentation de cette édition produite par Fatouma Kalala. Pour commencer, le sommaire. Les discours haineux aggravent les tensions en RDC et mettent en danger la sécurité régionale. Et l'ONU, par la voix de son haut commissaire aux droits de l'homme, s'est dit préoccupé par cette incitation à la violence. En Tunisie, l'alcool frelaté fait au moins 4 morts et quelques 40 cas d'intoxication dans le sud du pays. Il faut absolument éviter un embrasement du conflit entre Israël et le Hamas au Moyen-Orient. Anthony Blinken, en tournée dans la région, tire la sonnette d'alarme. Et puis, ne manquez pas notre page éco et les sports avec les préparatifs des équipes engagées dans la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans moins d'une semaine en Côte d'Ivoire. Mais pour commencer, le journal. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit très préoccupé dimanche par les discours de haine à caractère ethnique et l'incitation à la violence en République démocratique du Congo. Ces préoccupations sont contenues dans un communiqué diffusé à Genève. Nathalie Barge.
Volker Türk a déclaré être préoccupé par la montée des discours de haine, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kasaï et la région du Katanga, après les élections générales du mois dernier. Il a qualifié les discours haineux, déshumanisants et incitatifs d'odieux, soulignant qu'ils aggravent les tensions en République démocratique du Congo et mettent en danger la sécurité régionale. Volker Türk a noté que malgré les efforts de certaines autorités, des actions plus fermes sont nécessaires. Il appelle les autorités à enquêter sur tous les signalements de tels discours et d'incitation à la violence et à demander des comptes aux responsables. 2 semaines après le scrutin, seul le résultat de l'élection présidentielle a été annoncé. Selon un décompte provisoire qui doit être confirmé par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi a été réélu avec 73% des voix. Les leaders de l'opposition, dénonçant des irrégularités, ont rejeté ce résultat. Ils ont demandé l'annulation de ces élections et l'organisation de nouveaux scrutins. Les églises qui avaient déployé des observateurs ont indiqué avoir documenté de nombreux cas d'irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats de différents scrutins en certains endroits.
Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé que des victimes civiles ont été découvertes après des frappes aériennes de l'armée contre des terroristes dans la nuit de vendredi à samedi près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon un communiqué du CNSP, l'armée a repoussé l'attaque terroriste d'un groupe avec une vingtaine de motos qui visait un poste militaire à Tiawai dans la région des Tillabéri. Les blessés ont été évacués au centre de santé de Godéyé, selon les militaires. Le président somalien Hassan Cheikh Mohamud a signé durant le week-end une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, le Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de côte pour une durée de 50 ans. Le président somalien a déclaré que l'adoption du projet de la loi autant pour moi, annule ce pacte qu'il a qualifié d'illégal et qui donne à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge. En Tunisie, 4 personnes sont mortes et plus de 40 ont été intoxiquées après avoir consommé de l'alcool frelaté dans le sud du pays. Abdourahmane Dia.
Une enquête a été ouverte et la personne qui a fourni la substance a été interpellée, a indiqué Fethi Bakouche, porte-parole du tribunal de Médinine. Des analyses sont en cours pour connaître la composition de la substance à l'origine de l'intoxication. Sur la quarantaine de personnes intoxiquées, une majorité a pu quitter l'hôpital local, mais certains, plus gravement atteints, ont été transférés vers des hôpitaux de Tunis, selon le porte-parole. Les cas d'intoxication dus à la consommation d'alcool frelaté sont fréquents en Tunisie et entraînent souvent la mort. En 2021, les autorités sanitaires avaient annoncé la mort de 5 personnes et l'hospitalisation de 25 autres après la consommation d'alcool frelaté dans la région de Kasserine. En mai 2020, 6 personnes sont mortes et 39 ont été intoxiquées après avoir consommé du méthanol près de Kairouan. La consommation d'alcool fabriquée de manière artisanale est fréquente dans certains quartiers populaires de Tunis et dans les régions reculées du pays où le taux de pauvreté et de chômage est élevé. Cet alcool illégal est souvent beaucoup moins cher que les boissons alcoolisées vendues en magasin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a annoncé dimanche un accord bipartisan sur le budget fédéral total pour l'année fiscale 2024, franchissant ainsi une étape pour éviter une paralysie de l'administration américaine en cette année d'élection présidentielle. L'accord sur un plafond de dépenses fédérales d'environ 1 600 milliards de dollars a été annoncé par le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et les chefs de file démocrates du Congrès après des semaines de négociations. La décision a été rapidement applaudie par le président Joe Biden. Tout doit être fait maintenant pour qu'un texte final soit adopté avant la date limite du 19 janvier, date à laquelle certaines agences fédérales n'auront plus de financement. Le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a reconnu ce week-end avoir omis de signaler son hospitalisation qui n'a été rendue publique que tardivement, y compris à la Maison-Blanche selon les médias. Gabi Dorsil.
L'hospitalisation du chef du Pentagone depuis lundi dernier pour complications de santé n'a été rendue publique que vendredi soir par le département de la Défense, suscitant les critiques de l'Association des journalistes du Pentagone. Il a été admis 4 jours en soins intensifs. La date de sa sortie de l'hôpital militaire Walter Reed n'est pas connue, a indiqué le Pentagone, affirmant que M. Austin a toutefois repris ses fonctions depuis vendredi soir. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et les responsables de la Maison-Blanche n'ont été informés que 4 jours après l'admission de M. Austin à l'hôpital, a rapporté l'hebdomadaire Politico. M. Sullivan a ensuite prévenu le président Joe Biden et le Congrès américain l'a appris 15 minutes avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Dans un communiqué, M. Austin a déclaré assumer l'entière responsabilité de ses décisions, précisant qu'il serait bientôt de retour au Pentagone. Il s'est entretenu avec le président Biden samedi soir, a indiqué la Maison-Blanche. L'Association des journalistes du Pentagone a estimé dans une lettre que ce retard d'annonce de plusieurs jours est un scandale. Le sénateur républicain Tom Cotton, membre de la Commission des Forces armées, a quant à lui estimé que cette défaillance choquante doit avoir des conséquences. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a affirmé que la ministre adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, autorisée à assumer les devoirs du ministre s'il en est incapable, était prête à agir à chaque instant.
Le conflit entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza pourrait se métastaser, a prévenu dimanche à Doha au Qatar le secrétaire d'État américain Antony Blinken en tournée dans la région pour tenter d'éviter un embrasement au Moyen-Orient. Fatouma Kalala.
C'est un moment de profonde tension dans la région. C'est un conflit qui pourrait aisément se métastaser, causant encore plus d'insécurité et plus de souffrance, a déclaré dimanche Antony Blinken lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani. Ce dernier a affirmé que son pays poursuit ses efforts pour parvenir à une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas, même si l'assassinat mardi du numéro 2 du groupe armé palestinien à Beyrouth a affecté, selon lui, un processus déjà compliqué. Le secrétaire d'État américain a assuré qu'il soulèvera auprès des responsables israéliens l'impératif de faire plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza. M. Blinken a répété son rejet des déclarations de ministres israéliens préconisant un retour de colons juifs à Gaza en affirmant que les civils palestiniens doivent pouvoir rentrer chez eux dès que les conditions le permettront. Il s'est par ailleurs dit profondément désolé pour la mort de 2 journalistes d'Al Jazeera tués dimanche dans une frappe imputée à Israël. Après la Jordanie où il a rencontré Amman, le roi Abdallah II, et le Qatar, M. Blinken est arrivé dans la soirée à Abu Dhabi, nouvelle étape de sa tournée régionale, d'où il se rendra ensuite en Arabie Saoudite.
La chaîne de télévision Al Jazeera a justement déclaré dimanche que deux de ses journalistes palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur leur voiture dans la bande de Gaza, accusant l'armée israélienne de cibler les journalistes palestiniens. Hamza Wolf Dadou, journaliste de la chaîne Al Jazeera, et son collègue Mustafa Touraya, un vidéaste pigiste qui travaillait avec la chaîne Qatari et collaborait avec d'autres médias internationaux, ont été tués alors qu'ils roulaient en voiture à la pointe sud du territoire palestinien pour effectuer leur travail, a déclaré Al Jazeera. Le puissant séisme qui a ébranlé le centre du Japon le 1er janvier dernier a fait au moins 161 morts, tandis que 103 personnes sont toujours portées disparues, selon un nouveau décompte annoncé lundi matin par les autorités locales. Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a par ailleurs fait quelques 560 blessés, selon un communiqué du département d'Ishinikawa, le plus touché par la catastrophe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Alexandrine Rolognon.
Le régulateur américain de la sécurité aérienne a annoncé samedi qu'il clouait au sol certains Boeing 737 MAX 9 dans l'attente d'inspection au lendemain de l'explosion d'un panneau de l'un de ses avions au-dessus de l'état de l'Oregon, dans l'ouest des États-Unis. Ces dernières années, Boeing a été confronté à des problèmes techniques et de contrôle de la qualité liés à ses modèles 737 MAX. Les négociateurs du secteur de la santé sont à San Francisco pour la JP Morgan Healthcare Conference. La rencontre débute ce lundi et durera 4 jours. Les organisateurs prévoient attirer plus de 8000 personnes, y compris des délégations des plus grands fabricants de médicaments au monde, signe d'un retour à la normale. Dans l'ensemble, les fusions-acquisitions mondiales dans le secteur de la santé ont augmenté de 8% sur une base annuelle pour atteindre 365 milliards de dollars en 2023. En Afrique, le Kenya a annoncé vendredi avoir accueilli les premiers touristes étrangers sans visa, un allègement des formalités annoncées l'an dernier pour augmenter le nombre de visiteurs. Même si les voyageurs doivent toujours s'enregistrer sur Internet et payer un droit d'entrée, les touristes désirant aller au Kenya ont en effet toujours besoin d'une autorisation de voyage électronique qui s'obtient en remplissant une demande en ligne. Un droit d'entrée de $30 est également demandé.
Parlons à présent de sport avec Élisée. Élisée, l'actualité, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans moins d'une semaine en Côte d'Ivoire. Et certaines sélections qualifiées disputent des matchs amicaux pour les derniers réglages.
Oui, et c'est le cas du Sénégal qui joue aujourd'hui à Dakar le Niger, le tenant du titre. Conscient de l'enjeu, veut assumer son statut en Côte d'Ivoire. On écoute le sélectionneur Aliou Cissé.
Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont touché ce niveau-là. On est attendu, voilà. Tout le monde est sous pression, je le sens. J'allais à la Coupe d'Afrique 2017. Ça faisait 2 CAN que le Sénégal n'était pas sorti de la poule. On était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe. Bien sûr, on sera encore, on fera partie des favoris. Mais on ne fut pas cette responsabilité.
Les Lions de la Teranga ne fut donc pas leur responsabilité, dit Aliou Cissé au micro d'Amédine Si à Yamoussoukro. Le Sénégal jouera la Gambie, la Guinée et le Cameroun.
Les Lions indomptables, justement, jouent, eux, demain la Zambie.
Pour son premier match amical, le Cameroun sans André Onana, retenu par son club Manchester United, va affronter les Chipolo Polo de la Zambie à Jeddah en Arabie Saoudite. Sinon, aujourd'hui, on aura 2 autres rencontres amicales, Guinée-Nigeria et Ghana-Namibie.
Pour la suite, quelques résultats des matchs déjà joués, Élisée.
Et l'Égypte a fait le plein de confiance avant la compétition en disposant de la Tanzanie, score final 2-0. L'Algérie a fait mieux, 3-0 contre le Togo. Et puis, le Burkina Faso qui chute 2-1 devant l'Iran.
Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, s'est fait plaisir à 6 jours de son match d'ouverture contre la Guinée-Bissau.
Oui, les éléphants à San Pedro, dans une ferveur de Cannes, ont dominé 5-1 la Sierra Leone. Son adversaire de samedi prochain, la Guinée-Bissau, n'a pas convaincu, battu 6-2 par le Mali. Victoire aussi, mais de 2-0 en faveur du Mozambique opposé au Lesotho. En revanche, la Tunisie à domicile a concédé le nul 0-0 devant la Mauritanie. Même score entre la RDC et l'Angola.
Merci Élisée et à la prochaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon, toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour et on commence par le Burkina Faso, où on va vers un dénouement de l'affaire qu'il convient d'appeler « charbon fin ». L'opinion a été alertée en 2018 sur la saisie d'une cargaison de charbon fin qui contiendrait de l'or. Des organisations de la société civile ont crié au scandale et l'affaire hyper médiatisée retient toute l'attention du public. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé avoir conclu une transaction avec la société minière en question, IAM Gold Essakane. Des analystes et autres observateurs appellent à plus de transparence sur cet accord. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Tout est parti le 30 décembre 2018. Le procureur général, près la cour d'appel de Ouagadougou, donne l'ordre de saisir 32 conteneurs contenant du charbon fin à Bobo Dioulasso et Ouagadougou. C'est la société minière IAM Gold Essakane SA qui était auteur de l'expédition. 495 tonnes de charbon fin contenant 304,273 kg d'or et 135,891 kg d'argent sont ainsi saisies. Valeur estimée, plus de 7 milliards de francs CFA. Plus d'une dizaine de personnes sont accusées, entre autres des faits de fraude en matière de commercialisation d'or et d'autres substances précieuses, d'exportation illégale de déchets dangereux, de blanchiment de capitaux, de faux en écriture privée de commerce, d'usage de faux en écriture privée de commerce. Après 5 ans de procédure judiciaire, le gouvernement annonce une entente avec la société minière, un accord transactionnel. L'État pense sortir gagnant de l'affaire. Yacouba Gouba, ministre des Mines à la télévision nationale.
En ce qui concerne l'État, de pouvoir avoir l'abandon totalement de la cargaison, objet du différend, mais également il y a le paiement d'une amende au profit de l'État d'un montant de 9 milliards de nos francs. Les intérêts de l'État sont préservés.
Ce règlement transactionnel clôt ainsi le dossier dit du charbon fin entre l'État burkinabé et la société IAM Gold Essakane SA. Yacouba Ladji Bama, ce journaliste qui a été l'un des premiers à alerter l'opinion dans cette affaire, n'est pas convaincu.
À notre grande surprise, on apprend que l'État a décidé, après plusieurs tentatives avortées, d'aller à une transaction avec Essakane dans cette affaire. Ce qui est assez curieux, en tout cas pour ce qui le concerne, bien suspect, on allait dire, parce que on ne peut pas comprendre qu'on ait investi tant d'argent et tant d'énergie dans cette procédure judiciaire qui tire sa fin et que comme ça, un matin, on se lève et puis on décide d'aller faire une transaction qui va empêcher la manifestation de la vérité. C'est une entente entre des gens dans le noir, sans base réelle.
Adama Bayala, président du réseau national des consommateurs du Faso, déplore aussi cette transaction.
Nous nous acheminons allègrement vers un rendez-vous manqué. Ça aurait dû être un procès pédagogique pour l'État burkinabé, pour l'ensemble des sociétés minières implantées au Burkina Faso, pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de production et de commercialisation de l'or et des métaux précieux.
Le ministre des Mines a rassuré qu'il y aura une transparence dans le traitement du charbon fin, qui lui sera rétrocédé. Le gouvernement affirme aussi tirer des enseignements dans cette affaire et s'engage dans les prochains mois à engager des réformes pour davantage de transparence dans le secteur minier. Le procès qui était en cours a été renvoyé au 18 janvier prochain pour trouver une solution globale qui concernerait toutes les parties. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Après un débrayage des enseignants qui a paralysé le système éducatif pendant 2 mois, les élèves des cours préparatoires, collèges et lycées publics reprennent les cours ce lundi au Tchad. Le comité des crises du syndicat des enseignants du Tchad a suspendu la grève pour 1 mois pour permettre au premier ministre Succès Masra, qui a entamé le dialogue avec ce comité, de satisfaire ses revendications. André Kodmajinger, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Ouf de soulagement pour les élèves des établissements publics qui tournent en rond depuis 2 mois. Ils reprennent le chemin de l'école ce lundi grâce à un dialogue que Succès Masra a entamé avec le comité de crise quelques jours seulement après sa nomination à la tête du gouvernement.
Si nous avons choisi que la première rencontre et la première institution que nous voulons avoir à l'issue du premier conseil des ministres, y compris la volonté du président de transition qui a accepté d'élever le ministère de l'Éducation au rang de premier des ministères, qui a accepté même que dans les économies que nous avons déjà faites en diminuant le nombre des ministres, qu'une partie soit consacrée à l'éducation. Et donc c'est avec cet engagement solide là que je viens auprès de vous pour vous demander que nous travaillions à remettre les enfants à l'école.
Un appel qui semble avoir un écho favorable. Le comité de crise convoque une réunion extraordinaire au quartier général du 7 ce week-end pour statuer sur les démarches entreprises par le chef du gouvernement. Jirayom Bondo, responsable d'un lycée de N'Djamena, donne son avis.
À partir d'aujourd'hui, nous donnons mandat intégral au comité de crise de suspendre momentanément la grève. Je vous remercie.
Une proposition qui a suscité beaucoup de réactions. Pour certains, il faut exiger le versement des salaires de plus de 6 000 enseignants suspendus pendant cette période de grève avant toute reprise. Le président du comité de crise, Faustin Dumoudel, tente de calmer l'ardeur de ses camarades enseignants.
Le premier ministre nous a même déjà rassuré qu'il y a eu une cagnotte de 1 milliard disponible pour engager déjà à partir de la fin de ce mois de janvier. Raison pour laquelle nous avons décidé unanimement de la suspension de la grève allant du 6 janvier au 6 février, un mois pour permettre au gouvernement de s'exécuter. Par rapport au salaire suspendu, le gouvernement sortant a brandi un texte qui est caduque. Mais le gouvernement actuel nous a promis que des instructions seront données pour que le virement de salaire suspendu là soit fait pour que les intéressés puissent entrer en position de leur salaire à partir de mardi, mercredi.
Le président de la Fédération des parents d'élèves, Bamaye Mamadou, salue ce qu'il appelle la décision responsable des enseignants de reprendre les activités pédagogiques.
Pour nous les parents, la chose la plus importante pour nous, c'est notre enfant dans l'école. Non seulement qu'il aille à l'école, mais qu'il fasse l'école. Donc nous exhortons les uns et les autres à plus d'humilité. Et nous remercions aussi le gouvernement pour avoir pris des engagements qu'il arrive à les respecter.
Le Premier ministre Succès Masra demande aux enseignants de formation en instance d'intégration et aux ministres en fonction, y compris lui-même, chacun dans son domaine de compétences, de consacrer 2 heures le week-end pour organiser des cours de rattrapage au profit des enfants. Un engagement civique, dit-il. André Kodouma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, le système de santé connaît depuis plus de 10 ans des avancées en matière d'infrastructures sanitaires, avec la construction d'hôpitaux plus modernes dans les grands centres urbains. Mais l'accès aux soins de qualité reste problématique pour les moins nantis à l'échelle nationale. Les populations rurales sont les plus touchées. À l'absence de médicaments dans les dispensaires des villages, s'ajoute le déficit de personnel soignant qualifié. Les déserts médicaux sont nombreux dans ce pays qui tente d'améliorer la réputation du secteur hospitalier public. C'est ce que nous dit Ismaël Obianzé, notre correspondant à Libreville.
Se soigner ou se faire consulter par un médecin au Cap Estérias relève d'un parcours de combattant. David vit dans cette bourgade située à une vingtaine de kilomètres de Libreville.
Parfois, les gens qui sont malades la nuit, donc les gens qui accouchent, tout ça, c'est difficile. Les gens sont souvent les morceaux des serpents, les blessures, tout ça, les accidents. Parfois, c'est très déplorable. C'est comme ça. On va faire comment ?
À réhabilité depuis près de 8 ans, le dispensaire du Cap Estérias peine toujours à remplir sa mission de prise en charge des patients. Faute de personnel et de médicaments, l'accès aux premiers soins y est difficile, comme l'affirme Marie, enceinte de 6 mois.
Ah, pour les femmes enceintes, comme je le suis, s'il y a une situation qui m'attrape tout de suite, quand je vais aller là-bas, soit on va vous dire non, il n'y a pas de sage-femme, ou bien il n'y a pas de médicaments, donc vous êtes donc obligé de vous déplacer du Cap pour aller à Libreville. Donc j'interpelle les autorités compétentes qui viennent au moins nous sortir de ce genre de situation. Parce qu'ici, on se rend compte que même pour faire des échographies, nous n'avons pas les machines.
Alphonsine Ovenga est chef de village au Cap-Sérias. Elle reconnaît la dure réalité de cette situation tant décriée par les populations.
Il y a quand même les infirmières et les sages-femmes qui sont là, mais s'il n'y a pas de médicaments, on nous donne l'ordonnance pour aller acheter en ville, ou bien on nous dit de passer à l'hôpital général pour faire tout ce qu'il faut là-bas.
Pathologie mortelle non détectée à temps faute de matériel, mauvaise interprétation des analyses médicales, la liste des dysfonctionnements dans les structures sanitaires publiques s'allonge. Plus grave, devant le centre hospitalier de Libreville, une dame au bord des sanglots dénonce la non-prise en charge de son enfant par le service des urgences.
Les malades souffrent. Ce matin-là, on me dit qu'on doit transfuser mon enfant. Je suis à cause de 45 000 francs. Son père est fonctionnaire d'État. 45 000 francs ne veut pas transfuser l'enfant que son père viendra signer.
Face à autant de drames et de détresse, les plus nantis vont souvent se faire soigner à l'étranger. Et pour l'immense majorité de la population qui ne peut souffrir ces séjours sanitaires, la tentation est grande de se tourner vers les guérisseurs traditionnels. Car malgré les investissements du pouvoir déchu pour améliorer la qualité des soins et de prise en charge des populations, la réputation du secteur hospitalier gabonais, surtout public, n'est pas des plus reluisantes. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Et tout à côté au Cameroun, des Afro-descendants retrouvent leurs origines grâce aux initiatives de retour aux sources, notamment en faveur des Africains-Américains. Ces derniers peuvent ainsi visiter des sites historiques et mémoriels, point de départ de leurs ancêtres où ils viennent désormais faire des rites de purification. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Junta.
My ancestry traces to the Bamileke people, and I'm here in Cameroon to learn about the Bamileke and our land and our history.
Jason Elon est un Africain américain d'une quarantaine d'années. Il vient d'achever son premier séjour au Cameroun. En 2014, Jason Elon a passé un test d'ADN et découvert que ses ancêtres sont venus du Cameroun, précisément de la région de l'Ouest.
The slavers made special effort to remove my Africanness from my ancestors, and so for me it was important to reacclimate to my African heritage. And this is something that African Americans and Africans abroad are doing, have always been interested in Africa and our ancestry, but through science we've been able to trace our ancestry back to our people, and we're now trying to reclaim that history. So I'm here to reclaim that history.
Après un voyage dans la région de l'Ouest, Jason Elon, enseignant de littérature africaine-américaine à l'université de Missouri-Saint-Louis aux États-Unis, dit avoir retenu beaucoup de choses de la région d'origine de ses ancêtres.
I've learned that the Cameroonian people have challenges that we don't have back home in the States, and I appreciate those challenges. It's eye-opening to know how people live, and it gives me an insight on what we can do as African Americans to help.
L'initiative La Maison des Afro-descendants est l'un des projets mis sur pied par les Camerounais et qui encourage le retour aux sources des Afro-descendants. André Conchou, promoteur de la Maison d'Afro-descendants.
En dehors de l'espace qui est mis à leur disposition pour le séjour, c'est justement avoir, donc, même avant le déplacement, des échanges avec eux, connaître quels sont les centres d'intérêt et organiser donc un peu leur séjour ici avec eux. Établir des contacts. Ils ont été, par exemple, à l'Ouest, le contact avec le roi Bapa a été établi pour qu'ils visitent le musée, pour qu'ils le rencontrent aussi.
Bapa est l'un des villages de la commune de Bangou, dans la région de l'Ouest. Cette commune a été l'épicentre d'une forte activité de la traite transatlantique. Une jeune Camerounaise a travaillé à la création d'un jardin mémoriel dans cette commune. Paul-Christelle Dassy, conservatrice du patrimoine du projet La Route des Chefferies.
Les ressortissants qui se sont déportés aux États-Unis et qui ont retrouvé leurs traces en tant que Camerounais, en tant que Bamileke, reviennent ici à Bangou, par exemple, il y a 2 semaines. Il y a une famille de ressortissants américains qui sont revenus ici à Bangou et qui ont fait des rites de purification au niveau de la plaque du marché qui est là.
Après la mise en fonction d'un jardin mémoriel dédié à l'esclavage, le maire de la commune de Bangou salue une initiative à la fois historique et touristique.
Les populations sont souvent venues ici pour des rites et les rituels. On a essayé de réveiller ce mémorial. Le site est aménagé.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition, réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Fatouma Kalala. Merci à vous d'avoir suivi et resté connecté sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations 24 heures sur 24. À bientôt.